Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une véritable onde de choc révolutionnaire en 2011 dans l'ensemble de l'espace arabophone. Ce fut véritablement un printemps, oui, mais c'est un printemps qui a été suivi, comme dans tout processus révolutionnaire de longue durée, et c'est de ça qu'il s'agit, qui a été suivi d'un hiver, hein, d'une période, d'une phase contre-révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons encore.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une mise au point sur l'agression turque au Rojava qui sévit donc depuis le 9 octobre. L'armée turque et des brigades syriennes à son service, donc depuis lors, bombardent et envahissent le Rojava, région syrienne du Kurdistan, en prétextant la mise en place d'une zone de sécurité d'une trentaine de kilomètres. Et donc dans cette émission... Nous allons nous entretenir avec Vivian Petit, qui est un des rédacteurs de l'article du même nom que notre émission, donc mise au point sur l'agression turque au Rojava, et qui est paru sur le blog d'Agitation Autonome.
Évidemment, cette intervention-là, ça s'inscrit dans la politique de l'État turc à l'égard du peuple kurde. Si on voit ça de manière un peu rapide, on peut évidemment se dire que c'est lié à la manière dont le nationalisme turc s'est construit en opposition aux différentes minorités, notamment les Arméniens et les Kurdes, depuis l'existence de l'État turc, c'est-à-dire à peu près un siècle. Dans la Turquie actuelle, ça fait plusieurs années que les opérations de l'armée turque dans la région kurde se sont accentuées, avec des bouclages des villes et des villages du Kurdistan, avec des arrestations massives, avec régulièrement des bombardements du côté turc, et avec aussi des arrestations de masse de militants, de journalistes, etc., de l'opposition turque, mais encore plus dans l'opposition kurde ou pro-kurde. Encore ces derniers jours, il y a eu des arrestations, par exemple, de maires ou de commères du HDP, donc qui est le parti ou la coalition de la gauche kurde et pro-kurde, notamment. Avec pour seul prétexte qu'ils avaient soi-disant soutenu le terrorisme, c'est-à-dire dénoncé cette agression. Du coup, ce qui se passe au Rojava depuis 10 jours, c'est une volonté de l'État turc de s'en prendre à toute possibilité en fait d'autonomie ou d'auto-administration de cette région-là par un parti, le PYD, qui est la branche syrienne du PKK, qui est un parti de masse beaucoup plus en Turquie qu'en Syrie, on y reviendra, et que la Turquie a, sous la pression, accepté de laisser passer il y a 5 ans, quand il fallait combattre Daesh. La Turquie avait laissé passer à la fois des Peshmerga, donc des combattants du Kurdistan irakien, et suite à une négociation avec Öcalan, le chef du PKK qui est en prison, avait accepté aussi de laisser partir donc des guerriers du PKK pour qu'ils aillent combattre Daesh, ce qui était à la fois le fait de céder un peu à la pression internationale au moment du développement de Daesh, et aussi la Turquie se disait que c'était peut-être la possibilité de se débarrasser d'un certain nombre de combattants kurdes et qu'elle réglerait ce problème-là plus tard. Maintenant que Daesh est vaincu et que l'insurrection syrienne aussi est vaincue, on semble assister à une sorte de partage du territoire entre les différents acteurs régionaux. Les États-Unis, maintenant qu'ils ont vaincu l'État islamique, lâchent complètement leur allié kurde. La Turquie a profité de la défaite de l'opposition syrienne pour la mettre à son service. Les différentes brigades de l'armée syrienne libre qui ont été défaites face au régime syrien et à ses alliés russes et iraniens, ont dû petit à petit négocier ou accepter des trêves. Et dans ce contexte-là, souvent, ce que faisait la Turquie, c'était en échange de l'acceptation de la trêve et du départ donc de ces troupes-là qui devaient rendre les villes reprises à l'armée syrienne suite à des semaines de bombardements et de massacres. Ces milices-là, en échange, avaient de l'argent, des armes et étaient exfiltrées par la Turquie petit à petit dans un contexte de défaite de l'insurrection syrienne. Une partie de ces brigades-là, qui sont issues de la révolution syrienne, qui sont issues de l'armée syrienne libre, qui a été créée en 2011-2012 pour protéger la révolution syrienne. C'était vraiment des brigades issues à la fois de civils qui décidaient de s'armer contre les massacres du régime, contre les snipers qui tiraient sur les manifs, etc. Et aussi des déserteurs de l'armée syrienne qui avaient refusé de tirer sur les manifs et donc qui avaient dû fuir avec leurs armes. Et du coup, qui devaient se situé en bataillon évidemment pour survivre. L'armée syrienne libre vient de ça. Mais petit à petit, au bout de 7 ans, d'une militarisation du conflit, de l'influence des différents acteurs régionaux, etc., et aussi d'une défaite en fait, la Turquie a réussi à transformer une partie de ces bataillons-là en un ensemble de mercenaires qui n'ont plus grand-chose à voir avec le souffle révolutionnaire qu'il y avait eu en 2011, quoi. Il y a une différence entre des civils qui s'arment dans un contexte de révolution et un ensemble de mercenaires au service d'un autre État qui mène la guerre au peuple kurde en suivant les ordres d'Erdogan et de l'État turc, qui est quand même un des persécuteurs historiques du peuple kurde. Et ça a été depuis un an la conquête d'Afrine. Afrine qui, contrairement justement à d'autres villes kurdes en Syrie, est une ville où le PKK ou le PYD, son équivalent syrien, ont une histoire et une base sociale de longue date. On y reviendra tout à l'heure, mais je disais, le PKK, c'est un parti de masse au Kurdistan turc, beaucoup moins au Kurdistan syrien. Mais ça dépend des régions, quoi. Et Afrin, c'était un parti historiquement très en lien avec la population, etc. Et c'est peut-être pas un hasard si la Turquie a d'abord attaqué cet endroit-là. Et c'est encore un endroit occupé depuis un an par ce qui s'appelle l'armée nationale syrienne, qui est la coalition de ces brigades-là, les ex-rebelles maintenant au service de la Turquie depuis un an. Et dans ce contexte d'opposition-là, par exemple, ce qui est très souvent documenté, c'est des déplacements de population, les brimades envers les Kurdes, des vols, des viols, des pillages, etc. Et maintenant, le prolongement de cette invasion-là d'il y a un an, c'est ce qui se passe maintenant dans un certain nombre de villes, de villages où on voit qu'à la fois l'armée turque bombarde les populations au napalm, ça a déclenché des déplacements de population et que Erdogan cherche à instrumentaliser la question des réfugiés syriens en disant que les régions qu'il appelle libérées, donc reprises au PKK, pourront servir à y mettre des réfugiés syriens, arabes, à la place. Et ça a été aussi des exécutions sommaires, l'exécution d'une responsable d'un parti politique qui avait été soit une création du PKK, soit une scission du PKK, on peut l'interpréter de différentes manières, mais qui était en gros un parti qui avait été créé en lien avec les États-Unis pour permettre à la fois le dialogue avec la population arabe syrienne opposée à Assad et mettre la pression sur la Turquie pour qu'il y ait un respect de cette autonomie du Rojava. C'est ça qui est en train d'être détruit en ce moment, quoi. En 2011, le PKK n'avait pas participé à l'insurrection syrienne contre Assad. Il avait plutôt négocié avec Assad le fait d'administrer ces territoires-là du Rojava en échange du fait que le PKK interdisait les manifs contre le régime. On y reviendra. Et là, dans un contexte de fin de guerre, le PKK espérait pouvoir défendre l'auto-administration qu'il avait mis en place. Il avait formé 30 000 gardes-frontières pour espérer sécuriser son territoire, etc. Et c'est ça qui est en train d'être détruit par l'armée turque. On se dirige du coup vers une fin de la guerre avec une reprise en main d'un certain nombre de régions par le régime qui profite de la défaite du PYD et de l'opposition syrienne. Et la Russie et la Turquie qui aussi se partagent différentes zones d'influence en fonction de leurs intérêts respectifs.
Oui, c'est intéressant effectivement de rappeler effectivement l'importance donc du régime dans toute cette histoire, et également des liens troubles qui existent de longue date en fait entre le PYD et Bachar al-Assad et son régime. Donc évidemment qu'ils sont antérieurs à 2011. Donc pour ça, on renvoie à une deuxième émission qu'on va faire avec toi, qui sera plus longuement consacrée à la révolution, la contre-révolution et la guerre en Syrie et au Rojava. Mais pour ce qui concerne précisément l'actualité, en réalité, depuis 2011, il y a une complicité plus ou moins active du PYD vis-à-vis du régime de Bachar al-Assad, qui ne tombe pas d'hier, contrairement à ce que certains ont bien voulu croire.
Oui, ben en fait, ce qui peut frapper quand même dans les discours qu'on entend en France sur le sujet, c'est à la fois le fait de ne s'intéresser aux populations sur place que en tant qu'ils sont peut-être nos alliés contre les djihadistes qui nous font peur, et ne rien dire de la vie des populations sur place. Et ce qui me frappe aussi, secondement, c'est le fait d'y plaquer des schémas idéologiques assez abstraits, quoi. Genre, par exemple, on entend régulièrement que c'est une expérience de démocratie et d'autogestion qui est attaquée par des djihadistes d'Al-Qaïda et de Daesh. C'est doublement faux. Parce que, enfin, je viens d'expliquer ce qu'est l'armée nationale syrienne au service d'Erdogan et comment elle a été créée. Et je pense que ça s'explique beaucoup plus par les réalités de la géopolitique en temps de guerre que par l'idéologie. Et par ailleurs, c'est factuellement faux de dire que, par exemple, les rebelles là, ou les ex-rebelles qui sont au service d'Erdogan, sont djihadistes et sont liés à Al-Qaïda. La branche syrienne d'Al-Qaïda, qui s'appelait anciennement Al-Nusra et qui a changé de nom pour sa réputation et pour faire semblant de rompre les liens avec Al-Qaïda, elle ne fait pas partie de cette opération-là. On présente les mercenaires au service d'Erdogan comme d'anciens membres de Daesh. C'est la plupart du temps factuellement faux. Ce qui est vrai, c'est qu'un certain nombre des brigades rebelles ont parfois exfiltré des déserteurs de Daesh, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une alliance avec Daesh. Et par ailleurs, les YPG ont aussi parfois accueilli d'anciens combattants de Daesh, souvent des gens qui avaient été enrôlés de force, souvent des gens qui avaient déserté, etc., et qui rejoignaient d'autres brigades. Ou André Hébert, par exemple, donc un volontaire français qui a combattu avec les YPG, dit lui-même dans son livre Jusqu'à Raqqa que dans des régions majoritairement arabes où Daesh avait été implanté, où des tribus arabes avaient dû faire alliance avec Daesh, etc., le YPG donc a dû ensuite s'allier avec ces tribus-là. Donc ce qu'il faut voir, c'est les alliances sur place, la géopolitique, ce qui se passe effectivement, plutôt que d'y plaquer des schémas idéologiques. Et secondement, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour défendre l'autodétermination des Kurdes, lutter contre l'oppression des Kurdes par les quatre États où ils sont implantés, l'Irak où ils ont été victimes d'un génocide à la fin des années 80 sous Saddam Hussein, l'Iran où aucun de leurs droits n'est reconnu, où leur langue n'est pas reconnue, leur représentation politique n'est pas reconnue, etc. La Turquie, où, comme je l'ai dit, ils sont persécutés depuis un siècle, où ils n'ont pas le droit, genre, ni à l'autonomie sur leur territoire, ni même à la pratique de leur langue. Et la Syrie, où, jusqu'à 2011, 300 000 Syriens, donc Syriens kurdes, n'avaient pas la nationalité. Et 70 000 même étaient privés de toute existence légale. Où les Kurdes, par exemple, subissent l'interdiction de nombreux emplois, de l'achat de la terre, etc. Il y a donc une oppression historique des Kurdes en Syrie. Cela dit, dire ça ne veut pas dire forcément défendre le PKK et faire un amalgame entre le peuple kurde essentialisé et le PKK. Il faut aussi voir justement l'histoire du PKK, qui, comme je l'ai dit, est un parti de masse au Kurdistan turc. Et en Syrie, en fait, c'est une question plus complexe, notamment parce que le PKK a historiquement considéré la Turquie comme son ennemi principal et la Syrie plutôt comme sa base arrière. Et du fait des tensions, notamment des tensions territoriales entre la Syrie et la Turquie, à propos d'une région qui s'appelle l'Iskenderun, qui est une région qui a été remise à la Turquie par la France et par la Grande-Bretagne en échange de la neutralité de la Turquie dans la Seconde Guerre mondiale, en raison de ces tensions-là, donc entre la Syrie et la Turquie, Hafez al-Assad a pendant longtemps instrumentalisé le PKK contre la Turquie. La formation militaire, par exemple, du PKK a notamment été assurée dans les années 80 au Liban. Au Liban, dans des régions qui étaient dominées par la Syrie. PKK a été, dans les années 80, financé et armé par le régime syrien et aussi a assuré des fonctions de police vis-à-vis des Kurdes syriens. En Syrie, plus qu'en Turquie, il y a un certain nombre d'autres forces politiques kurdes qui ne sont pas le PKK et qui y sont opposées. Et en 2004, par exemple, il y a eu l'intifada kurde avec des semaines de soulèvement, un soulèvement massif de la jeunesse kurde, maté notamment par des brigades au service du régime qui étaient constituées des Arabes de la ceinture arabe, une partie du Rojava où il y a eu une politique d'arabisation, quoi, des déplacements de population, le régime qui implante des populations arabes pour essayer de noyer les Kurdes, etc. Et du coup, en 2004, ces populations-là ont été utilisées pour réprimer ce soulèvement massif. Et du début à la fin du soulèvement, le PYD, donc la branche syrienne du PKK, ne participait pas à ce soulèvement-là et lançait des appels au calme, quoi. En 2011, ça a été à peu près la même chose. Le PYD n'était pas partie prenante du régime syrien, c'est le moins qu'on puisse dire, n'était pas son allié clair en 2011. Cela dit, il se disait contre le régime, mais pas avec le soulèvement contre Assad. Il y a eu d'énormes manifs en 2011, donc dans une bonne partie de la Syrie, avec une auto-organisation de la population, la mise en place de comités locaux qui visaient à la fois à organiser les manifestations, mais aussi à organiser la vie dans les territoires libérés, à gérer les écoles, gérer les hôpitaux, à mettre les villes en lien les unes avec les autres, etc. Et ça a notamment eu lieu, ça, dans les quartiers et les villes kurdes. Il y a eu des gros mouvements dans les quartiers kurdes, par exemple, d'Alep et de Damas. Et ce que raconte une partie de ces Kurdes d'Alep, c'est que ce sont notamment les brigades des YPG qui sont venues les réprimer. À Alep, les manifestants kurdes qui manifestaient contre le régime en 2011 se sont fait tabasser par des membres des YPG. Il y a eu des grosses manifs à Kamishli, notamment donc au Rojava, où il y avait majoritairement des Kurdes et aussi des Arabes, et notamment parce que le régime entendait maintenir une division, y réprimer relativement peu au début les populations kurdes, au début du soulèvement en 2011, ce qui faisait qu'un certain nombre d'Arabes d'autres villes venaient manifester à Kamishli parce que c'était plus sûr en fait. Et au moment où le régime était vraiment en difficulté, à partir de la fin de l'année 2011, et où il pouvait pas réprimer partout en même temps, ce qu'il a décidé de faire, c'est de réorganiser ses forces de sécurité et de se concentrer sur ce qu'il appelait la Syrie utile, c'est-à-dire la zone qui va d'Alep à Damas. Et du coup, il a négocié avec le PYD, qui était jusque-là resté relativement neutre, pour remettre les clés de la région du Rojava, c'est-à-dire y compris les armes, les postes de police, les voitures, tous les bureaux, etc., du Rojava. Il a accepté une auto-administration de cette zone-là au bénéfice du PYD. Et qu'en échange, le PYD s'assure du fait qu'il n'y ait pas de manif contre le régime dans les régions qu'il contrôle. Et ça a entraîné à la fois la mise en place d'une administration kurde au Rojava, l'ouverture de centres culturels kurdes, l'ouverture d'écoles en kurde, parce que là c'était interdit. Ça a entraîné l'ouverture de maisons des femmes pour accueillir les femmes victimes de violences, etc., qui sont des choses à propos desquelles toute la propagande du PKK insiste lourdement, mais ça a entraîné aussi la fermeture des médias indépendants favorables à l'insurrection au Rojava, la répression féroce des activistes et de toutes les forces politiques kurdes différentes du PKK et opposées au régime, avec soit la disparition d'un certain nombre d'activistes, soit leur arrestation et leur remise au régime. C'est quelque chose qui a notamment été expliqué par un chercheur qui s'appelle Arthur Kenney, qui a donné une interview à ce sujet-là dans Bastamag. Et ça a entraîné aussi, à des moments, dans des villes qui étaient gérées par le PYD et autour desquelles le PYD a mis des checkpoints, l'ouverture de ces checkpoints-là, le temps d'incursion de l'armée syrienne pour arrêter des activistes, avec ensuite du coup un redépart de l'armée syrienne une fois qu'ils ont arrêté ces activistes-là. Il y a eu aussi des assassinats, des disparitions. Meshal Tamo, qui était un activiste kurde syrien, le leader d'un mouvement qui s'appelle Courant du Futur, C'est un mouvement qui avait participé à la révolution, par exemple, a été assassiné et un nombre d'activistes kurdes accusent le PKK de ça. On a toutes les raisons de parler de l'autodétermination kurde, de s'opposer à cette attaque turque qui n'a pas grand-chose à voir avec l'insurrection syrienne. Et ça signifie pas qu'il faille spécialement idéaliser ce qui se passe au Rojava depuis le début. Je pense qu'il faut plus se rendre compte de comment les différents camps, donc soit le PKK, soit maintenant l'insurrection syrienne qui est défaite, se retrouvent au service de différents États, quoi. Soit la manière dont le PKK, à partir de 2014-2015, en contact du développement de Daesh, a fait alliance avec les États-Unis contre Daesh et en même temps avec la Russie contre l'opposition syrienne, où là, ça a pu être seulement une répression de l'insurrection syrienne par les YPG dans les territoires kurdes, mais aussi la participation des YPG aux offensives contre l'insurrection. Par exemple, ils ont participé à la reprise d'Alep au bénéfice du régime. Ils ont aussi participé plus récemment au combat aux côtés de l'armée du régime contre l'opposition à Deraazor ou à Idlib. Et maintenant, donc, comme je le disais, l'insurrection qui est défaite, qui se retrouvent pour une partie d'entre elles complètement en brigade de mercenaires qui n'ont plus rien à voir avec l'insurrection syrienne.
Oui, et c'est important ce que tu dis parce que on se rend compte que d'une part, il faut bien distinguer les Kurdes dans toute leur diversité sociale et politique du PYD, puisqu'évidemment la société kurde, c'est un truisme de le dire, mais est traversée par différentes tendances politiques, dont le PYD-PKK n'est qu'une de ces tendances politiques, même si elle est majoritaire dans certains endroits comme à Afrin, et d'autre part qu'elle est traversée évidemment par des contradictions de classe, de genre, comme ailleurs. Et d'autre part, c'est important de dire que si le PYD-PKK peut avoir une certaine légitimité dans l'autodéfense et la défense du droit à l'autodétermination du peuple kurde, on voit bien que, surtout à partir de 2015-2016, il sort complètement de son rôle. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui se passe en 2011, ce n'est clairement pas une révolution, pour commencer. C'est un pacte avec le diable, d'une certaine manière, qui est très critiquable, à mon sens, et qui participe de la défaite de la révolution syrienne. Mais ça, c'est une chose qui peut encore un petit peu se comprendre dans une optique un petit peu égoïste, entre guillemets, ethnocentrée, de on va faire notre auto-administration chez nous. Par contre, à partir de 2015-2016, avec cette double alliance dont tu as parlé, là, le PYD sort complètement de cette stricte, entre guillemets, auto-administration et auto-défense du droit à l'émancipation du peuple kurde, puisqu'il va commencer à conquérir des zones qui sont majoritairement arabes, et là, va participer non plus passivement, mais activement à la défaite du soulèvement syrien. Donc, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, et puis évidemment, sur son alliance avec les États-Unis, qui, d'une part, pouvaient se comprendre, disons, dans la pure optique de défense face à Daesh, mais qui, par contre, devient beaucoup plus contestable à partir du moment où il s'agit d'une conquête, de territoires à majorité arabe.
Non, comme tu le disais déjà, les Kurdes sont par définition divers et il y a différentes forces politiques et on voit que là, toutes les forces politiques kurdes, par exemple, même celles opposées au PKK, sont évidemment encore plus opposées à l'invasion turque. Du coup, c'est pas du tout ça qui est en jeu, quoi. Même les différentes forces politiques là qui sont du coup opposées, les forces politiques kurdes qui sont opposées au régime et au PKK sont évidemment encore plus opposées là aux ex-rebelles qui sont avec Erdogan, quoi. Du coup, c'est pas du tout ça, évidemment, qui est contesté. Et même, c'est pour ces forces-là, ça a été dur dans leurs négociations avec le reste de l'insurrection syrienne. Il y a eu ce qu'on appelle un Conseil national kurde qui regroupait les différentes forces politiques qui étaient opposées au régime. Donc, il n'y avait pas le PYD dedans. Et le but de ces forces-là, c'était d'intégrer donc la coalition nationale syrienne, qui, en gros, était la coalition de l'opposition à Assad, dans laquelle il y avait à la fois des libéraux, des islamistes, des nationalistes, des gens de gauche, etc. Ils ont obtenu que cette coalition-là, par exemple, reconnaisse les droits du peuple kurde, c'est-à-dire dénonce les discriminations et les interdictions par rapport à l'emploi, à l'accès à la terre, à la langue, etc. mais la coalition nationale syrienne a refusé de reconnaître en gros la diversité de la Syrie. Par exemple, ils ont refusé de renommer la République arabe syrienne en République syrienne, ce qui est quand même une demande assez légitime de la part des Kurdes qui ne sont pas arabes. S'ils se définissent comme Syriens et s'ils veulent participer à la révolution en Syrie en tant que Syriens, c'est quand même compliqué de leur dire « Ah oui, mais on lutte quand même pour une république exclusivement arabe ». Aussi, c'est une chose de critiquer Rojava, son alliance avec le régime d'Assad et la mise en place d'un régime de parti unique. Cela dit, évidemment, la critique qu'on fait, c'est pas du tout une contestation de l'idée d'une décentralisation, d'une auto-administration. Et en fait, la coalition nationale syrienne, elle, a accepté absolument pas une forme de délégation ou même de décentralisation. Quoi. Du coup, je disais ça pour être un peu juste sur les griefs qu'on fait au PKK vis-à-vis de l'opposition syrienne, c'est de dire que même pour les autres forces kurdes qui ont été dans l'opposition syrienne, contrairement au PKK, même pour ces forces-là, ça avait été assez compliqué, quoi. Et là où le PKK, du coup, qui était loin d'être majoritaire en Syrie, chez les Kurdes, notamment du fait de sa politique, soit en 2004, ses appels au calme, au moment de l'intifada kurde, soit de 2011 à 2015, sa persécution des opposants au PKK et des opposants à Assad, le PKK s'est retrouvé en première ligne et avec beaucoup plus de soutien, à partir notamment du moment du développement de l'État islamique. Beaucoup plus de soutien à la fois des Kurdes et à la fois international. Quand il y a la prise de Kobané par l'État islamique, la Turquie accepte dans un premier temps donc les Peshmerga, les combattants donc kurdes irakiens qui ont leur propre gouvernement à Erbil, un gouvernement qui a plutôt des bonnes relations avec la Turquie. La Turquie préfère dans un premier temps autoriser ces combattants-là à passer en Turquie, plutôt que ceux du PKK, évidemment. Ces combattants-là traversent le Kurdistan turc en étant acclamés par la population, etc., ce qui déplaît fortement au PKK, à mesure où ce sont leurs rivaux directs, sinon parfois presque leurs ennemis. Et le PKK arrive quand même à négocier avec les Peshmerga le fait que les Peshmerga ne seront pas en première ligne contre Daesh. Le PKK arrive à obtenir la remise des armes lourdes des Peshmerga au YPG, la branche armée du PKK. Et ensuite, le PKK conclut une alliance avec la coalition internationale occidentale, les États-Unis et l'OTAN, pour être en première ligne contre Daesh. Quoi. C'est une nouvelle technique de guerre occidentale, c'est plutôt que d'envoyer massivement des troupes occidentales au sol, c'est de se lier à des bataillons locaux. Et les deux conditions que leur imposent les États-Unis à ce moment-là, c'est que cette armée-là du PKK, donc des YPG, soit multiethnique. Donc les YPG fondent les forces démocratiques syriennes, où ils recrutent un certain nombre de bataillons de l'ASN, plutôt en déroute, qui du coup intègrent les forces démocratiques syriennes pour avoir l'appui occidental. La seconde condition imposée par les États-Unis, c'est le fait que cette armée-là aura 100 000 hommes. Et c'est quelque chose en fait qui est extrêmement problématique parce que ça fait en sorte que les forces démocratiques syriennes ont mis en place une conscription forcée, c'est-à-dire que dans des villages arabes qui ont été reconquis, notamment dans le gouvernorat d'Assaké à l'est de la Syrie, les YPG ont été plutôt perçus comme des occupants et en plus ils ont mis en place cette conscription-là forcée. Peine de payer une amende de $500. Un autre problème, enfin, il y a différents problèmes dans cette intervention occidentale, c'est aussi le fait que la seule reconnaissance, du coup, de la part des États-Unis a été militaire. Donc, l'ensemble des budgets était dévolu à la guerre. C'est-à-dire que on se raconte un certain nombre d'histoires sur l'autogestion Rojava, etc., souvent sans citer un seul exemple concret, alors que la politique du PKK est entièrement dirigée depuis des années en Syrie, très très majoritairement vers l'effort de guerre. Par exemple, on parle énormément d'autogestion, de démocratie directe, etc. Il y a en effet des assemblées locales dans les villes reprises, soit Rojava, soit même dans les villes et les villages arabes. Cela dit, il y a d'abord une multiplication de ces assemblées-là, à tel point que quand il y a des manifestations, par exemple, pour les conditions de vie, etc., ils ne savent pas exactement à quelle assemblée ou à quelle institution s'adresser, et que ça semble même être une stratégie, parce que dès qu'une assemblée est critiquée, le PKK annonce qu'il va en mettre en place une nouvelle, plus pure, plus démocratique, etc. On a beaucoup parlé de démocratie directe. Cela dit, dans chacune de ces assemblées-là, il y a des membres du PKK, soit syriens, soit turcs le plus souvent, qui sont ceux qui valident ou qui invalident les décisions. Aussi, la plupart des budgets donc sont militaires. Et surtout, dans un contexte de guerre, l'ensemble des décisions stratégiques sont gérées par la branche militaire du PKK. Par exemple, si un village veut faire venir soit un commerçant, soit un boulanger, etc., il faut un accord militaire, une autorisation militaire du PKK. Et dans la mesure où il y a des checkpoints, etc., si il faut faire venir de la farine, il faut à la fois l'accord militaire du PKK et aussi à ce moment-là un recensement pour savoir combien il y a d'habitants dans le village et combien en ont besoin. Sauf que ce recensement-là va être rendu impossible par la conscription de force et par le fait que les gens ne veulent pas aller combattre pour le PKK. Et donc, en fait, il y a une expérience un peu idéalisée, un peu mythifiée de cette autogestion-là qui semble être une propagande liée à cet effort de guerre-là. Et ce que je dois dire aussi, c'est que cette intervention occidentale-là a favorisé donc la reprise des villes et des villages par les Yézidis, par exemple à Mandij, où ils ont refusé que le conseil élu par la révolution syrienne avant la prise de la ville par Daesh revienne. Donc les Yézidis ont d'abord été accueillis plutôt positivement par la population parce qu'ils étaient vus comme ceux qui libéraient la ville de Daesh, mais ils se sont ensuite mis la population à dos quand ils ont notamment refusé toute remise en place d'une administration civile issue de l'opposition à Assad qui avait été élue avant, quoi. L'intervention aussi occidentale a créé énormément de problèmes, par exemple dans les cibles. En fait, c'est une intervention qui a été liée au développement de Daesh, à la prise par Daesh des puits de pétrole, puis aux attentats de Daesh à travers le monde, même si, par exemple, la France avait participé à cette intervention-là avant qu'il y ait des attentats en France. Et en fait, ça a été une évolution diplomatique de la part des États occidentaux. Il y a eu, dans un premier temps, une pression relativement modérée, mais existante quand même, contre le régime de la part des États occidentaux. À partir du moment où il y a eu le développement de l'État islamique, la plupart des chancelleries occidentales ont décidé de changer de ligne diplomatique et de se dire tous contre Daesh et seulement contre Daesh, quitte à, par exemple, se coordonner avec Poutine qui intervenait au service d'Assad. Et par exemple, les bombardements ne ciblaient pas que l'État islamique, mais aussi d'autres forces djihadistes comme Harar al-Sham ou le Front al-Nusra, mais sans être gênés par le fait que, par exemple, ces brigades-là, toutes critiquables qu'elles soient, était lié parfois au reste de l'opposition syrienne qui était obligée de composer avec elle pour tenir le front contre Assad, et qu'une fois que ces brigades-là, donc d'Al-Nusra par exemple, ou d'Ar al-Sham, avaient été complètement défaites et bombardées, c'était une reprise en main du régime d'Assad. Et en fait, il y a eu 500 000 morts en Syrie depuis le début de la guerre, et la majorité des morts ont été faits par le régime. La majorité des Syriens qui se sont sauvés en priorité contre Assad. Et donc, considéré comme priorité ou même comme seul sujet de se battre contre Al-Nusra, contre Ar al-Sham, contre l'État islamique et non contre le régime, c'est quand même quelque chose qui fait que à la fois l'insurrection syrienne a été défaite et aussi que les Yézidis se sont mis une partie des populations arabes à dos, et enfin que même une partie de l'opposition syrienne plutôt modérée a été défaite. Par exemple, à Idlib, al-Nosra, la branche d'Al-Qaïda, a chassé de la ville le Front révolutionnaire syrien, qui est une brigade modérée, civile, qui se prononce pour la démocratie et plutôt laïque. Cette brigade-là, parce qu'elle était alliée aux États-Unis, a été chassée de la ville par al-Nosra avec le soutien des habitants, parce que les États-Unis étaient vus comme ceux qui faisaient le jeu du régime. Et par exemple, la coalition internationale aussi bombardait les silos à grains dans les villes qui étaient occupées par Daesh. Sauf que dans un contexte de famine, c'est peut-être pas la chose à faire, ne serait-ce que si on veut avoir le soutien de la population, quoi. Et dernière chose à dire, c'est en même temps que les Yézidis ont conclu cet accord-là avec les États-Unis, ils ont aussi conclu un accord avec la Russie, quoi. À partir de 2015, c'est dans ce contexte-là, avec le soutien aérien russe, qu'ils ont aussi repris des villes à l'opposition et à l'insurrection syrienne au bénéfice du régime. Et ce qui a quand même favorisé la victoire du régime, ça a été vraiment le soutien aérien russe, notamment à partir de 2014. Alors qu'en 2012, il y avait une insurrection massive, civile, qui majoritairement n'était pas islamiste jusqu'en 2012. Et il y a eu vraiment un tournant par la militarisation et par militarisation qui a surtout été décidée par le régime et par sa répression et par les interventions extérieures, notamment russes et iraniennes, au service du régime.
Oui, et d'ailleurs, ce que vous dites dans votre article, donc mise au point sur l'agression turque au Rojava, c'est que à partir de 2016, les YPG ont combattu avec le soutien aérien russe et aux côtés de l'armée de Bachar el-Assad contre les rebelles syriens, notamment à Alep, également contre l'opposition à Deir ez-Zor et à Idlib, qui fait qu'ils ont même été accusés d'épuration ethnique, notamment par des chercheurs d'Amnesty International. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus parce qu'effectivement, ça montre bien jusqu'où le PYD est allé dans sa complicité de l'écrasement de la révolution syrienne, même si, comme tu l'as bien dit, évidemment, les torts sont partagés. Il y a eu également un certain nombre d'erreurs stratégiques et politiques qui ont été commises par l'insurrection syrienne depuis 2011, sans doute par nationalisme arabe. Et une forme d'hostilité vis-à-vis des Kurdes qui, au début, n'avait pas vraiment de fondement, disons, au-delà du jeu trouble du PYD, puisqu'il y avait quand même une partie des Kurdes qui soutenaient la révolution syrienne. Et puis après, au fur et à mesure du temps, effectivement, ça devient plus compréhensible, comme d'ailleurs la méfiance du PYD vis-à-vis de l'opposition syrienne devient de plus en plus compréhensible à partir du moment où une partie de celle-ci se rallie aux Turcs.
Bah justement, le président d'Amnesty International, qui a été emprisonné en plus par la Turquie, c'est pour son soutien aux Kurdes. Sa dénonciation des opérations militaires turques contre le Kurdistan et la dénonciation des crimes de guerre de l'armée turque au Kurdistan. Donc en effet, c'est une association qui est quand même assez peu accusable de défendre l'État turc dans sa guerre contre le peuple kurde. Et en fait, le rapport en question d'Amnesty International s'appelle We Had Nowhere Else to Go, donc nous n'avions aucun autre endroit où aller. C'est sorti suite à un voyage d'observateurs d'Amnesty International en 2015 dans 14 villes et villages repris par les YPG, des gouvernorats d'Assaké et de Raqqa, quoi. Donc des villes et des villages majoritairement arabes, repris par le commandement du PKK et des YPG, et où en fait les habitants disent qu'ils ont été déplacés en masse avec des destructions d'habitations, etc. sur des bases ethniques. Les YPG ont évidemment nié, ont dit que c'était juste lié au déplacement de la ligne de front. Cela dit, oui, Amnesty International a maintenu le fait qu'un certain nombre d'évidences et de témoignages recueillis disaient que c'était lié à des critères ethniques, au fait que ces villages-là étaient majoritairement arabes et que des brigades kurdes des YPG les occupaient. Et aussi, à ce moment-là, la propagande des YPG a consisté à dire que c'était dans la lutte contre Daesh, alors qu'un certain nombre de civils et de ces villages-là avaient été très majoritairement favorables à l'ASL, et notamment aux brigades de l'ASL qui s'étaient battues contre Daesh. Et ça, en fait, c'est un gros problème. C'est quand même un des points communs du PKK et de ses soutiens en Europe et du régime syrien, c'est le fait d'amalgamer l'ensemble de l'opposition à Assad, à Daesh, à Al-Qaïda, de manière assez opportuniste, en fait.
C'est effectivement important de le rappeler que finalement, les PYD étant une armée comme une autre, elle commet également des crimes de guerre, même si évidemment c'est peut-être l'armée qui en a commis le moins par rapport au régime qui a commis des crimes de guerre atroces par rapport aux Turcs ou même par rapport à Daesh, mais ça reste une armée qui a eu des pratiques comme effectivement voilà, ces soupçons d'épuration ethnique, l'enrôlement d'enfants soldats, la conscription forcée, et puis évidemment des participations à des opérations militaires qui ont fait énormément de morts chez des civils.
Et les articles qu'on a écrits, en fait, c'était même en plus moins pour donner des bons et des mauvais points au PKK que pour discuter un peu de ce qu'ont été les positions politiques en Europe. et notamment au sein de la gauche et de l'extrême gauche. Ce qui est assez frappant, c'est la manière dont, quand on parle des gays, y compris à l'extrême gauche, on en parle juste ou majoritairement en tant que soutien des Occidentaux contre les djihadistes qui nous font peur. Et en fait, on en est à oublier qu'il y a eu un soulèvement massif dans toute la Syrie, que le régime syrien a lancé des barils de TNT sur la population, des armes chimiques, a torturé en masse, a massacré la population, voilà, quand même dans une certaine indifférence. Et de voir en fait une partie de cette gauche-là, en fait, à la fois par exemple les positions de Mélenchon et de la France insoumise, ou des positions qui se veulent plus radicales, se retrouvent à applaudir l'intervention de l'OTAN parce que les troupes au sol sont des troupes issues du PKK. Et ça, c'est quand même assez étonnant, quoi. Genre, pendant des décennies, l'extrême gauche s'est mise à critiquer l'impérialisme occidental, les interventions occidentales, etc., en disant qu'elle, même si elle luttait contre des dictateurs, elle ne le faisait pas au nom de la liberté et de l'égalité. Elle le faisait pour défendre des intérêts économiques et souvent pour favoriser des dictateurs que les gouvernements, les entreprises occidentales aiment contre des dictateurs qu'ils n'aiment pas. Et que c'était surtout des intérêts économiques en jeu. Mais une fois que le PKK, les alliés au sol de l'OTAN, ce discours-là a totalement disparu. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui soit se sont opposés de manière caricaturale, soit se sont méfiés de l'insurrection syrienne en fantasmant une déstabilisation venant de l'Occident, en craignant une intervention de l'OTAN analogue à celle qu'il y a eu en Libye, par exemple, pour défaire le régime et pour essayer d'y mettre en place un nouveau gouvernement issu de l'opposition, mais en choisissant la branche, celle la plus favorable aux intérêts des multinationales, etc. Mais cette intervention-là contre le régime, elle n'a pas eu lieu. Et l'intervention qui a eu lieu, ça a été celle contre Daesh, qui, dans la manière dont elle a été menée, a quand même favorisé un retour du régime en affaiblissant un ensemble plus large de l'opposition, et aussi qui a quand même entraîné la mort de milliers de civils par les bombardements sur les zones habitées, techniques de guerre en fait, qui ont été menées depuis plusieurs décennies, notamment par les États-Unis et par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire des bombardements d'artillerie assez massifs sur des zones densément peuplées avant l'arrivée des troupes au sol. Et en fait, il y a quand même une faillite d'un pseudo-anti-impérialisme qui pense que l'impérialisme, c'est juste les États-Unis, donc qui ne dit rien de l'intervention russe contre la population syrienne au profit de Bachar el-Assad, et qui ne dit rien sur l'intervention occidentale réellement existante contre Daesh, mais aussi contre d'autres parties de l'opposition et coordonnée avec la Russie, qui ne dit rien de ces crimes de guerre-là, et qui se réveille juste quand il y a des vagues menaces d'intervention contre Assad. Quand même assez consternant, et aussi qu'il y a un oubli des populations locales. Par exemple, là, ce qui peut frapper, c'est par exemple ce meeting qui s'appelait « Soutien à nos alliés kurdes », qui, plutôt que de soutenir les populations sur place, et notamment kurdes, contre les différentes interventions extérieures et contre le régime, est un meeting qui va donc, genre de la France Insoumise, du PCF et d'Europe Écologie, jusqu'à la droite, les Républicains et l'UDI, et insiste majoritairement dans ce meeting-là, sur le risque sécuritaire en France et sur le fait que les Kurdes, comme on dit, c'est-à-dire les combattants qui se battent avec l'OTAN, ont été nos alliés et que du coup, il faut les défendre en tant que nos troupes ou nos boys. Et c'est ça qui, dans le fond, intéresse beaucoup plus que la situation des populations locales dans un pays où il y a quand même eu 500 000 morts du fait essentiellement de la répression de la dictature d'Assad.
On voit finalement à quel point est-ce que la lecture majoritaire dans la gauche, l'extrême gauche française, est extrêmement problématique. On peut résumer donc les différents points problématiques. D'une part, ce que Leila Alchami, dans son livre Burning Country, a appelé l'anti-impérialisme des imbéciles, c'est-à-dire qui consiste à soutenir un impérialisme, celui de l'axe Russie-Iran-Hezbollah contre un autre, et encore, comme on l'a vu, pas tout à fait, hein, parce que pour combattre Daesh, l'impérialisme américain était parfaitement soutenu, que ce qu'on peut appeler le campisme, c'est-à-dire qui consiste dans un jeu géopolitique complexe à prendre position de manière inconditionnelle pour un camp, alors que, comme le disait très bien un révolutionnaire kurde cité dans Burning Country, Bien sûr que on peut soutenir le peuple kurde, notamment à travers un soutien matériel et concret à ses organisations représentantes, dont le PYD, mais il faut que ça reste un soutien critique. Lui insiste bien là-dessus, et voilà, ne pas être aveugle à tout ce qu'il y a eu de problématique et à tout ce qu'il y a de poudre aux yeux, voilà, dans ce que dit et dans ce que fait le PYD. Et là, la gauche retombe dans un vieux travers. Donc il y a le travers du campisme, et puis il y a également le travers de l'idéalisation, voilà, de croire la propagande d'une organisation sous prétexte que voilà, elle représenterait un peuple essentialisé, le peuple kurde. On tombe aussi, troisième biais, dans une forme d'ethnocentrisme. C'est-à-dire, ça nous intéresse parce que Daesh, ça nous touche directement, et parce que les Kurdes, ils ont l'air d'être un peu comme nous. Un biais qu'on retrouve notamment dans le film lamentable, je sais pas si on va vraiment en parler, de Caroline Fourest, voilà, qui s'intéresse aux Kurdes, voilà, uniquement dans une caricature occidentalisée. Et quatrième chose qui, à mon avis, est vraiment peut-être la pire, c'est l'indifférence aux populations civiles, et notamment aux populations qui se sont soulevées depuis 2011 contre Bachar el-Assad. Et tout ça, alors évidemment, en partie a fait un peu le jeu des États-Unis, en partie celui du PYD, mais a fait surtout le jeu de l'axe qui risque de sortir gagnant de ce conflit qui dure depuis 2011, même si la Turquie, évidemment, réussit à faire cette zone de sécurité de 30 km. Les gagnants, ça va être l'axe Bachar-Iran-Russie, enfin, qui sont devenus, disons, les interlocuteurs indispensables, à la fois pour les Turcs, à la fois pour le PYD, pour les États-Unis, et qui, là, sont en train de reconquérir une des dernières parties du territoire syrien qui leur échappait. Et ça, c'est aussi le produit de ce qu'a fait et de ce qu'a pas fait, surtout, la gauche et l'extrême gauche occidentale. Et puis surtout, hein, parce qu'évidemment, la gauche et l'extrême gauche occidentale n'ont pas non plus un poids matériel très important, mais des États occidentaux, et puis aussi, il faut bien le dire, du PYD, qui finalement a essayé de tirer au mieux son épingle du jeu de 2011 jusqu'à 2019, et qui là est en train de se retrouver pris à son propre piège, puisque lâché par ses principaux alliés, et finalement, comme le régime de Bachar el-Assad, aujourd'hui, grâce au soutien iranien du Hezbollah et de la Russie, a les moyens de reconquérir toute la zone qui lui avait conféré gentiment en 2011 en échange de cette espèce de pacte de non-agression, eh bien, le PYD va probablement, à l'issue de cette agression, se retrouver comme le dindon de la farce, malgré finalement le fait qu'il ait participé plus ou moins activement à l'écrasement de l'insurrection syrienne. Donc même son calcul géopolitique, finalement, se sera avéré assez vain.
Bah, en fait, ce qui est frappant, c'est quand même cet alignement de la gauche et de l'extrême gauche sur la diplomatie française, en fait. En 2011 et en 2012, il y avait eu la vague rumeur d'une révolution, d'une expérience autogestionnaire au Rojava, qui avait un peu parcouru l'extrême gauche, mais c'était resté quand même très très discret. Et l'insurrection syrienne aussi n'avait pas non plus déclenché ni de grandes manifestations en France de soutien, ni de manifestations massives devant les ambassades de Russie contre les bombardements de la population, ni de volonté d'avoir des interventions humanitaires ou des formes de soutien ou de relais aux expériences de soulèvements et d'organisations qu'il pouvait y avoir en Syrie de la part des civils qui se rebellaient, etc. Et en fait, on s'est mis à beaucoup parler de la Syrie quand il y a eu les attentats en France. Il y avait ce discours-là antiterroriste, etc., qui venait de l'État, mais qui avait aussi sa déclinaison dans l'extrême-gauche, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu fleurir des slogans tels que « Fuck ISIS, support PKK », avec l'idée donc qu'il fallait se battre contre l'État islamique, pour notre liberté, pour nos valeurs, etc. Très bien, mais peut-être pas à n'importe quel prix, peut-être pas dans la négation de la situation en Syrie et en Irak, et peut-être pas de la même manière que l'OTAN, ou dans une forme de soutien acritique à ceux qui sont soutenus par l'Irak. Et encore une fois, quoi, c'est une chose de dire que le projet de l'État islamique est criminel, dangereux pour la population, et qu'en effet c'est une bonne chose qu'ils aient été en recul puis défait. C'en est une autre de dire que c'est le seul problème. Et c'est quand même soit ce qui a été fait dans des meetings de soutien soi-disant les Kurdes, dans les faits, à l'intervention de l'OTAN en soutien avec les YPG, parce que c'est ça qui a intéressé les orateurs, c'est là-dessus qui était majoritairement, voire parfois exclusivement, axé les discours. Et voilà, dans un désintérêt de ce qui est vécu effectivement par les populations qui ont très majoritairement été massacrées par le régime. Et là où ça devient complètement absurde, c'est par exemple notamment dans le discours de Mélenchon, qui est vraiment la caricature des contradictions qu'il peut y avoir dans ce type de discours. Mélenchon qui a, par exemple, dit qu'il s'opposait à toute intervention en Syrie au moment où le régime était en train de réprimer la population, puis qui a soutenu l'intervention russe en disant que Poutine allait régler le problème. Et qui maintenant, après s'être toujours opposé à l'idée d'une intervention de manière abstraite, mais en soutenant de fait l'intervention de Poutine, se retrouve à dire que par exemple notre armée devrait soutenir l'accord entre les YPG et l'État syrien. C'est-à-dire, ce qu'il propose effectivement, c'est que l'armée française se batte contre l'armée turque en soutien au régime de Bachar el-Assad. Et tout ça. Alors qu'un certain nombre de militants de la France insoumise sont sincèrement convaincus que c'est une dénonciation de l'impérialisme et des interventions extérieures. Et en fait, précisément, c'est un soutien à différentes interventions, d'abord russes, puis là, il demanderait une intervention française sur place. Et ouais, juste pour finir, ce qui est frappant, c'est cet intérêt pour ce qui se passe en Syrie. Soit uniquement quand on se sent menacé en France par des attentats, soit quand il y a des gens qui nous ressemblent. Et là, on peut voir que différentes tendances peuvent y plaquer leurs différents fantasmes. À l'extrême gauche, on va aimer entendre des mots comme féminisme, écologie, autogestion, et on va s'intéresser à ce qui se passe en Syrie quand il y a des étoiles rouges. Et pour Forest, eh ben, on va faire un film, par ailleurs mal filmé et mal joué, mais où, par exemple, il va y avoir énormément de gros plans sur des femmes cheveux au vent contre des barbares hirsutes. Et l'enjeu de son film, c'est un peu ça, quoi. Il y a vraiment tous les clichés, quoi. Genre, déjà, il y a un certain nombre de clichés islamophobes, dans la mesure où bah, il y a un personnage chrétien plutôt positif, une femme juive plutôt positive, etc. Mais où les deux femmes de culture musulmane se développent en opposition à l'islam. Et ensuite, il y a un peu tous les clichés dans le film, quoi. Genre, l'héroïne jouée par Camélia Jordana a eu sa sœur égorgée parce qu'elle portait pas le voile. Enfin, et du début à la fin du film, c'est juste ça. Et dans ses interviews, par exemple, Forrest, elle assume le côté propagandiste de son film. Elle dit qu'elle cherche à créer des héros positifs dans la culture occidentale, de la même manière que les États-Unis ont su le faire pour leur armée après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et un discours qui, par exemple, va défendre les YPG au nom du fait qu'ils gardent nos djihadistes. Mais là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Moi, je préfère encore entendre le discours d'un certain nombre d'avocats qui disent que, quoi qu'aient fait les gens, ils ont quand même des droits à un procès équitable et au respect du droit de la défense. Dans tous les cas, il faut aussi lutter contre la peine de mort. Et donc, ils disent que c'est un scandale que la France accepte que ses ressortissants soient jugés en Irak et puissent être condamnés à mort. Et que c'est aussi un scandale qu'ils aient pu être jugés dans les tribunaux mis en place par les YPG, où la loi antiterroriste tient sur une seule page, où on n'a pas le droit de connaître son dossier, on n'a pas le droit d'avoir accès à un avocat. Et en fait, ce discours-là me paraît quand même un peu plus sérieux que l'idée qu'il faut une intervention de l'OTAN pour protéger ceux qui gardent nos djihadistes, parce qu'on ne va quand même pas les juger en France avec le respect du droit de la défense. Et quand même avec des discours assez étonnants, quoi, quand on entend à l'extrême gauche que cette intervention-là pourrait favoriser l'arrivée de djihadistes en France, et avec des discours quand même complètement caricaturaux. L'argument quand même de l'arrivée des djihadistes en France, il est instrumentalisé par tout le monde, quoi. Il est instrumentalisé par les YPG qui disent que ceux qui ont planifié des attentats en France vont risquer de s'échapper, etc. Alors qu'en fait, les États-Unis notamment interviennent depuis le début. pour faire en sorte que les prisonniers considérés comme dangereux du point de vue occidental soient détenus dans des prisons dans le désert, protégés par les troupes américaines. Ensuite, c'est Erdogan qui menace de laisser les réfugiés arriver en France, qui, dans un contexte où un certain nombre de familles, de prisonniers, notamment des femmes et des enfants liés à des anciens combattants de l'État islamique qui avaient été mis dans des camps par les Yézidis. Les camps ont été ouverts dans le contexte de la guerre parce que les gardes ne pouvaient pas rester là. Et ces populations-là, donc majoritairement des enfants qui fuient au milieu de la guerre, ont été traitées uniquement comme une menace potentielle, y compris dans les discours de l'extrême gauche. Et un certain nombre d'entre eux ont été maintenant arrêtés par l'armée turque ou par ses supplétifs. Et maintenant, c'est la propagande turque qui, du coup, insiste là-dessus vis-à-vis des Occidentaux en disant « Ah, on garde pour vous des gens que vous considérez comme une menace, quoi. » La focalisation sur la question sécuritaire en Europe, et non sur ce qui est effectivement vécu par les populations au milieu de la guerre, quelque chose qui est quand même assez étonnant dans la manière dont ça soude de l'extrême droite à l'extrême gauche en France.
Oui, je pense que c'est effectivement une bonne manière de conclure, c'est-à-dire que finalement, la gauche et l'extrême gauche est restée focalisée sur ce qui l'intéressait immédiatement, plus en termes soit d'idéologie, soit de citoyens français potentiellement menacés par Daesh, et n'a pas cherché à gratter ce qu'il y avait derrière l'idéologie du PYD, ni ce que ça impliquait finalement d'être focalisé uniquement sur Daesh. Tu as très bien montré finalement tous les problèmes que ça posait. On continuera d'aborder ces problèmes dans une plus longue émission qui reviendra un peu sur le temps long un petit peu de la révolution, de la contre-révolution et de la guerre en Syrie au Rojava, notamment en s'intéressant notamment à la question kurde, hein, pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation actuelle. Et puis évidemment, on renvoie donc à l'article que tu as publié avec d'autres donc dans Solitude Intangible, et également un article que tu avais fait paraître en 2018 qui s'appelait « Le point d'explosion d'idéologie au Kurdistan » et qui était paru à l'époque sur Solitude Intangible, mais qui a été republié sur Agitation Autonome. Et donc, on te remercie, et puis on te réécoutera donc dans une autre, on te retrouvera dans une autre émission donc consacrée à la révolution, la contre-révolution et la guerre en Syrie et au Rojava dans une perspective plus historique et plus longue. Voilà, merci.
Merci de l'invitation en tout cas.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Il n'y a aucun doute qu'il y a eu une véritable onde de choc révolutionnaire en 2011 dans l'ensemble de l'espace arabophone. Ce fut véritablement un printemps, oui, mais c'est un printemps qui a été suivi comme dans tout processus révolutionnaire de longue durée, et c'est de ça qu'il s'agit, qui a été suivi d'un hiver, hein, d'une période, d'une phase contre-révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons encore.